C'était pas une salle conviviale, non. C'est pas le mot que je mettrais. C'était plutôt tous les possibles. Je vois ça comme ça.
Il n'y avait pas assez de moyens, il y a eu des moments où les gens étaient plus fatigués. Voilà, tout d'un coup, on n'a plus de local, il faut en trouver un nouveau, on passe de Frisson 2 à Frisson 3. Mais je crois que la force d'un endroit comme ici, c'est d'avoir toujours vu le verre à moitié plein.
La philosophie a toujours été d'investir dans de la bonne musique.
Mon critère, c'est qu'ici, je suis certain de ne pas entendre de la musique que j'aime pas.
Frisson, une idée un peu folle et surtout une urgence à faire bouger les lignes. À son ouverture en 1983, rien ne laisse présager que ce haut lieu de la culture alternative deviendra un emblème de la ville de Fribourg. En 40 ans, le club a déménagé 3 fois, il s'est réorganisé à de multiples reprises, il a vu se succéder plusieurs générations de passionnés, mais une chose n'a jamais changé durant toutes ces années, l'esprit de Frisson. Depuis 40 ans, Frisson, c'est bien plus qu'une salle de concert, c'est d'abord une famille avec des membres qui vont et qui repartent, un lieu de rencontre et d'échange qui a coforgé l'identité de la ville tout entière et qui sert de trait d'union entre les régions germanophones et francophones du canton. Pour honorer ce haut lieu de culture, de rencontre et d'échange, ce podcast plonge dans les souvenirs de celles et ceux qui se sont engagés durant ces 40 dernières années pour faire de ce club de musique un espace mythique, unique et souvent décisif dans le parcours de celles et ceux qui y collaborent. Épisode 2, un succès qui a son coût.
Frisson, Lutto Stolz, Zeit um 1980.
Moi, je suis pas bonne pour les slogans.
Loud and proud since 1983.
Loud and proud, puis après.
Loud and proud since 1983.
Loud and proud, c'est maintenant. Hein? Voilà, alors ça je trouve c'est bien. Et surtout le loud, c'est clair, on fait des bruits et on secoue la ville. La ville paisible de Fribourg.
Après la fermeture du premier Frisson dans l'ancien hôpital des Bourgeois, celui de la rue de l'Industrie est lui aussi fermé sur ordre des autorités. Mais à quelques pas seulement du deuxième site de Frisson, une usine de condensateurs située à la rue de la Fonderie ouvre de nouvelles perspectives pour l'équipe de Frisson. Comme à chaque déménagement, le club investit un lieu qui a une âme, même si à la Fonderie, les défis sont immenses.
Bon, la coïncidence, c'est qu'on apprend que ce truc-là, va être... Il y avait encore quelques ouvriers qui travaillaient là.
Jean-Marc Gachou, lié à Frisson depuis presque 40 ans.
Mais va être, les activités vont être complètement abandonnées et il va être disponible à la location.
Das ist im 87-88 gsi in der Periode.
C'était dans les années 87-88. Tout à coup, on s'est retrouvé face à cette salle immense, complètement vide. Ça ressemblait à un bâtiment post-industriel de Corée du Nord ou de je ne sais trop où.
Marius Kaiser, membre de la famille Frisson durant 12 ans.
Au début, ça a été vraiment compliqué de s'habituer à cette salle immense. On n'avait qu'une petite sono tremblotante pour cette salle gigantesque. Les débuts ont été difficiles, au niveau du son surtout. C'était épouvantable.
Disons que c'était un petit peu rock'n'roll parce qu'un certain programme avait été fait et il y a eu des petits problèmes. Du coup, on s'est retrouvés un peu, Hélène et moi, au début, un peu comme ça, avec tout.
Sonia Maras, membre de l'équipe Frisson durant près de 10 ans.
Et il fallait ouvrir et il fallait aller faire le bar et tout ça, ça a pris un moment. On n'était pas seul, non, entendons-nous. Mais ouais, c'était assez rock'n'roll. Mais on l'a fait et c'était bien.
C'était beaucoup des autres dimensions. Au début, c'était bizarre. C'était vraiment un peu bizarre. Voilà, il faut s'approprier.
Marcel Bregg, actif dans l'aventure Frisson durant près de 20 ans.
Oui, la grandeur après de tout ce truc, c'était quand même un peu space au début.
Au début, Frisson, là, il n'était pas très convivial. Cet aspect immense, mais qui permettait tout. Je crois que c'était... Personne n'avait envie de cloisonner ou d'en faire quelque chose de qui est trop un genre.
Marie Daubens, impliquée à Frisson durant 15 ans.
Je crois qu'il fallait que ce soit ouvert, que tout soit possible.
Oui, à l'époque, la salle était tournée à l'envers. L'entrée se trouvait derrière la scène principale actuelle.
Laurent Steyert, impliquée à Frisson depuis les années 90.
Derrière celle-ci, il y avait une petite entrée qui existe encore aujourd'hui et un petit bureau où on faisait la programmation et qui servait de caisse à l'entrée. Il y avait un petit couloir d'à peine un mètre de large par où le millier de spectateurs de certains concerts devaient passer. À droite, il y avait ensuite deux WC dames. C'était un peu juste pour 400 femmes, donc pas tout à fait dans les normes actuelles. Et pour les hommes, il y avait trois pissoirs et une cuvette en alu qui servait de demi-WC pour le reste des gens. C'était plutôt rudimentaire.
On a trouvé ensuite des solutions pratiques grâce à un artiste fribourgeois, Reis Freiburghaus, que j'aimerais remercier au passage. Il a créé deux grandes parois amovibles, ce qui nous a permis de partager la salle en deux parties, d'améliorer sensiblement l'atmosphère et l'acoustique.
Habituée à se débrouiller avec des bouts de ficelle, l'équipe de Frisson a toujours su insuffler un esprit particulier au lieu qu'elle occupait. Dès ses premières années, la presse locale considère que Frisson se rapproche plus du loft new-yorkais que de la maison de culture subventionnée. Il n'empêche, avec le déménagement, la capacité de la nouvelle salle amplifie massivement la charge de travail et il n'est pas possible d'assumer le loyer sans un soutien des autorités de la ville.
À l'époque, on avait toujours une bonne relation avec la commune. C'était dû au fait qu'il y avait un conseiller communal qui s'appelait Jean-Pierre Dort, de l'ancien PDC qui est devenu le centre maintenant, donc un type plutôt à droite, quoi. Mais qui trouvait normal qu'il y ait un truc pour les jeunes à Fribourg, voilà. Il n'est jamais venu écouter un concert, mais il nous a toujours fait confiance, et puis j'ai eu aussi la chance de faire partie, pendant quelques années, de la commission culturelle de la ville de Fribourg, où je représentais un peu toute la culture alternative, marginale de Fribourg. Il leur fallait quelqu'un à table, là-bas, pour discuter. Et donc, ça permettait de tisser des liens avec un milieu qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis d'apparaître crédible aussi dans ce milieu-là, sans forcément, renier ce qu'on faisait. Moi, j'allais toujours en blouson de cuir et tout. Et je crois que ça a créé un climat de confiance qui a permis après au reste de fonctionner. Et quand on est venu voir ici avec Dort, on lui a dit, bon, mais écoute, mon cher, il va falloir payer, parce que nous, les 5000 francs par mois, on ne les a pas. Et puis il m'a dit, ça, je fais mon affaire. Mais il se trouvait aussi qu'en fait, le propriétaire de ces bâtiments, il était membre du même parti. Donc ça aussi, ça crée ça met de l'huile dans les rouages, on va dire.
Alors, Frisson, on était toujours dans le conflit et la négociation.
Yvan Salin, membre de l'équipe Frisson depuis près de 25 ans.
On n'est jamais été dans la radicalité là. La radicalité, c'était sur la forme. C'est-à-dire, il ne faut pas venir nous embêter sur la musique. Mais on sait, voilà, on a des comptes à rendre aux autorités. Il y avait un cadre avec lequel, on a toujours négocié. Du coup, on a tapé sur la table.
L'équipe de Frisson doit donc affûter sa force de négociation et soigner ses arguments pour convaincre les autorités de soutenir leur projet et leur assurer une aide financière. Mais lorsqu'il faut obtenir des fonds supplémentaires des collectivités publiques pour remplacer le système de sonorisation, un important travail de lobbyisme est une nouvelle fois minutieusement orchestré par le comité pour convaincre les élus du bien fondé de leur projet.
On avait des problèmes avec l'infrastructure de sonorisation. Puis là, dès que tu commences à toucher à ça, c'est des dizaines de milliers de francs, quoi. Donc c'était pas possible de prendre ça sur le fond de roulement de Frisson. Et c'est à cette occasion-là, entre autres, qu'on a fait le tour de tous les partis. On les invitait dans les loges ici. Et puis on leur expliquait tout le truc. Et puis une fois que ceci a été fait, il y a eu une séance de budget de la commune, où une proposition a été faite d'augmenter la subvention, ou je ne sais plus si c'était d'augmenter la subvention ou si c'était un montant qui était proposé pour acheter cette sono, qui était une sonorisation de chauffeur d'occasion. Hein. Et nous, on était dans les tribunes en dessus, donc on s'est tapé déjà toute la soirée avec leur sujet. C'était d'ailleurs très drôle de les voir bosser quand même. Et puis arrive le truc de Frisson, quelques interventions, dont une, je crois, de John Clare, qui n'a pas arrêté de lire le journal pendant toute la séance, et qui s'est réveillé à ce moment-là. Et puis là, il a envoyé un truc comme ça qui est parti. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, mais en tous les cas, ça a réveillé tout le monde. Et puis, il passe au vote, et bingo, à une voix près. C'est passé, à une voix près. Et on s'est dit, ben voilà, ça, cette voie, on l'a gagnée en faisant le travail ici. Donc ça donnait de la valeur à ce qu'on avait fait, quoi. N'y croyez pas, toi. C'était incroyable.
Sans une certaine tolérance des autorités, rien n'aurait été possible. Même si le soutien au départ était plutôt hésitant, voire très hésitant.
Pablo Niederberger, impliqué à Frisson durant presque 25
ans. On ne nous a jamais vraiment mis de bâton dans les roues ou créé des embrouilles, du moins quand j'y
étais.
C'est d'ailleurs devenu assez rapidement évident que le lieu pouvait avoir un certain rayonnement et donner une image positive de la ville, voire de sa modernité. Je ne sais pas comment les autorités de l'époque l'ont elles-mêmes ressenti, mais elles ont au minimum soutenu le lieu.
Il y a d'ailleurs une anecdote autour de la visite de courtoisie entre Fribourg et Freiburg im Breisgau. Le responsable culturel de Freiburg im Breisgau avait parlé aux autorités de Frisson et du fait qu'il connaissait l'endroit. Les autorités fribourgeoises n'ont pas trouvé ça très amusant.
L'anecdote a circulé loin à la ronde, même jusque dans les bureaux de la radio à Lausanne. En 1990, la chaîne Espace 2 consacre 55 minutes d'émission au club fribourgeois et la journaliste Martine Béguin ne manque pas d'interpeller les autorités à ce propos.
Monsieur Ducret, chef du département culture et tourisme de la ville de Fribourg. Donc quand le maire de Freiburg im Breisgau vous dit que ce qu'il connaît de Fribourg, c'est la Landwehr et Frisson, ça vous fait plaisir?
Ah mais tout à fait, parce que bon, la Landwehr c'est une institution, c'est clair. Frisson c'est une institution qui deviendra, je pense aussi, il y a maintenant près de 10 ans que ça existe. Et c'est vrai que le maire de Fribourg im Breisgau nous a parlé de la Landwehr et de Frisson.
Et je crois que ce qui était important, c'était qu'on a réussi, vu la composition du comité, vu aussi, on va dire, le savoir-faire politico-social des diverses personnes. Là, on a toujours été de plus en plus des interlocuteurs valables pour la commune. Petit à petit, la commune a aussi vu comme quoi d'avoir Frisson dans la commune de Fribourg, c'était aussi un plus.
Presque 2 ans après son emménagement dans l'ancienne usine de condensateurs, les fonds sont donc enfin réunis pour lancer les travaux d'aménagement. Mais pour mener de front tous ces travaux, des centaines de petites mains sont nécessaires. Il faut donc appeler un maximum de bénévoles à la rescousse. Toujours sur les ondes d'Espace 2, on retrouve Jacques Chouvet, l'un des cofondateurs du club, qui donne des détails sur leur opération séduction.
Et puis, c'est qui fait la peinture, là? C'est la liste des bénévoles qui collaborent pour vous?
La liste des bénévoles qui font, exactement. Chacun a une petite carte à la maison, et ils pouvaient s'inscrire pendant une période d'un mois,
quel jour, l'après-midi, le matin ou le soir, qui était disponible venir travailler bénévolement à Frisson.
Et puis ça marche, les gens se proposent.
Les gens se proposent, oui. Il y a encore des gens qui sont fanatiques. Non, mais je crois que c'est bien. C'est des gens qui ont du temps libre, au lieu de passer dans un bistrot, ils viennent le faire ici. C'est bien, je crois que c'est ça.
Bah, je me rappelle de l'été où on a tous bossé, repeint.
Valérie Imbert, membre de l'équipe Frisson durant 24 ans.
Je me rappelle d'avoir nettoyé les chiottes au pic à glace avec Hélène Veubet. Cette année où on a tous beaucoup bossé pour la nouvelle salle, quoi.
On a refait la peinture de la salle, le bar.
Isabelle Barra.
Et puis j'ai travaillé 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus.
Membre de la famille Frisson pendant plus de 10 ans.
On était différentes personnes. Il y avait Marcel qui est sur l'usine à Genève. Il y avait Pascal Badou. Et puis voilà, donc on a nettoyé, on a peint ces plafonds en noir. Et puis après, je trouvais qu'il y avait une super ambiance. Enfin, c'était pas compliqué. Et puis, à l'automne, Frisson cherchait du monde, entre autres à la caisse. Donc moi, j'ai commencé à la caisse. Et puis, donc dans mon parcours, j'ai commencé les petites mains à nettoyage, monter, démonter des échafaudages, la caisse, le bar, la cuisine.
Il fallait faire partie de, je crois. Et c'est pour ça, moi, j'ai fait partie du Festival du Belluard, de Frisson, du CAPS, tous ces endroits qui étaient des endroits où c'était festif, mais il fallait y mettre du sien pour que ça le soit.
À cette époque-là, ben voilà, on faisait les choses ensemble, on n'était pas payé, on recevait des invites, mais souvent on refilait les invites pour dire viens, c'est bien, tu connais pas ce lieu, c'est pas que des drogués, ouais, c'est ce tissu de l'époque où ça se passait un peu partout comme ça, si tu veux.
On avait plusieurs équipes, si on veut bien. On travaillait plus ou moins depuis la maison, le téléphone, les lettres. Les contrats étaient envoyés par la poste et gentiment, on a eu un répondeur téléphonique où on pouvait laisser un message si on ne pouvait pas décrocher tout de suite. C'était comme ça à l'époque. On se voyait tous une fois par semaine.
On était facilement 10 à 12 personnes. Je ne dis pas le foin que c'était. Parce qu'il y a des gens qui coupaient les cheveux en quatre. Hein. Des débats interminables. Et puis, en fait, il y avait des propositions qui étaient faites par un groupe de programmation. Et puis, on les validait en fonction surtout, pas tellement des... On ne discutait pas tellement des goûts musicaux parce qu'on se faisait assez confiance là-dessus. C'était plutôt pour des raisons financières.
Ensuite, il y a eu un bond technologique avec l'arrivée du fax. C'était une étape importante. On était fiers avec notre fax. On pouvait enfin jouer dans la cour des grands, entre autres au niveau européen. Je me souviens d'une discussion à Frisson pour savoir si un fax avait du sens, car son coût faisait débat. On parlait d'un contrat de leasing de 3000 francs pour un beau fax Canon. Et je me souviens d'une belle controverse avec Pablo, qui était contre une location. Finalement, il a dû s'incliner.
La communication, il y avait pas le réseau, il y avait pas Internet, il y avait pas de téléphone portable, donc toute la communication a été matérialisée soit par la radio et puis les affiches, les radios locales et puis les affiches dans les autres clubs et puis les programmes qui étaient envoyés aux gens. On recevait le programme à la maison. Et puis, donc ça, c'était la communication. Puis les affiches, c'est toute une histoire. Hein, si tu regardes là derrière, toute l'histoire de l'affiche de Frisson, c'est quelque chose qui est quand même assez... qui révèle un petit peu l'histoire de Frisson.
Et une anecdote, je peux en parler maintenant parce que je pense qu'il y a prescription.
Franz Treichler, membre fondateur de Frisson.
À l'époque, chaque affiche que tu posais en ville de Fribourg, tu devais mettre un timbre. Il y avait c'était le droit des pauvres. ou le droit de timbre, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis comme nous, on n'avait pas de sub, rien, en fait, ça coûtait quand même une blinde, parce que c'était, je pense, 30 centimes, 50 centimes pour l'époque, c'était beaucoup. Donc en fait, l'astuce, c'était qu'on printait le timbre sur l'affiche. Donc on faisait un faux timbre. Et puis on prenait un stabilo, puis on le mettait en orange pour qu'il ait exactement la même gueule que le timbre. Donc en fait, on ne s'est jamais fait coller. Donc c'était tout du bénévolat et puis de la passion.
À côté de leur travail, les membres de l'équipe investissent chaque minute de leur temps libre dans l'aventure Frisson. Mais cet enthousiasme ne suffit plus pour assumer toute la charge de travail que représente le nouveau Frisson. Pour assurer la bonne gestion d'une salle d'une telle ampleur, la question de la professionnalisation devient centrale.
À la suite d'une fermeture d'une certaine période, je crois, de quelques mois ou une année, je ne sais pas, qu'on a fait, entre autres, pour ces histoires de sono qu'on devait remplacer, et puis faire des différents travaux là, qu'on a décidé d'attribuer un mi-temps, je crois, à Marius, mais il bossait à plein temps. Voilà. Et ça a donné déjà une colonne vertébrale au fonctionnement, parce qu'il y a quelqu'un qui était là, qui savait où se trouvaient les trucs, et, bah, c'était un peu le fouillis, le bureau, quoi. Donc ça a quand même permis déjà de un peu d'organiser l'histoire.
Ich bin dann glaub der erste, wo Ende 88 das kleine Mandat bekommen hat.
Il me semble que j'ai été le premier, au début 1988, à avoir reçu un petit mandat laissé pour 3 mois pour assurer une permanence au bureau avec un salaire de 1000 balles par mois. Le mandat a ensuite été transformé en job fixe. Ensuite, Jacques est revenu après une longue absence et on s'est partagé le job. Mais on a été longtemps les seuls à être payés. À part quelques techniciens son et lumière qui recevaient un peu d'argent, il n'y a pas eu de job fixe pendant longtemps.
Fixe Jobs hat es irgendwie lange nicht gegeben.
Das war eigentlich dann im 92, wirklich, wo man das auch tatsächlich diskutiert hat.
Und c'est en 1992 que tout a été réellement discuté et qu'on a adapté les statuts de la structure. C'est à cette époque qu'on a commencé à se payer les salaires.
Löhne zahlen. Natürlich ist das auch gekommen, weil
on a finalement dû arriver à ça parce qu'à la fonderie, la salle était très grande, disons 2 fois plus grande qu'à la rue de l'Industrie. Mais ce qui est sûr, c'est que le plan initial de nous sortir des salaires n'était pas viable. On a rapidement dû faire marche arrière parce qu'on n'avait pas le budget. Et jusqu'à la fin de mon implication, il y a toujours une grande part de bénévolat qui faisait partie de mon temps de travail.
À l'époque, quand Marius était programmateur à Frisson, il nous faisait des cassettes par mois, une cassette par mois de ce qui allait passer. C'était génial.
The Gun Club.
Moi, j'aime quand c'est cassette, quoi. J'arrive pas toutes à les liquider, quoi. Je les écoute plus, mais il y avait les cassettes. Et puis, tu savais un peu, ça pouvait être... C'était super, quoi. C'est un autre boulot, hein, quand même, que de faire ta playlist sur Spotify, quoi.
Grâce à la professionnalisation de ces quelques postes, le bureau peut davantage se concentrer sur le contenu du programme et sa promotion. Il crée par exemple chaque mois des cassettes, des mixtapes, pour présenter les concerts à venir.
Melvins.
Dans ces mix, on retrouve des groupes dont les concerts ont marqué l'histoire de Frisson, parmi eux, les Melvins bien sûr. Aussi les sonorités envoûtantes de l'un des plus grands chanteurs pakistanais.
Nusrat Fateh Ali Khan.
Ou encore un groupe à la renommée internationale, mais qui, en novembre 1989, n'avait pas su attirer beaucoup de monde à Frisson.
Nirvana.
Thank you. longtemps devenu célébrité mondiale, Kurt Cobain, Hallyday, ne jouera pas ce soir-là. Seuls ses musiciens se produiront sur la scène de Frisson, accompagnés pour quelques chansons du chanteur Tad, qui se produisait le même soir. Reste que la présence de tel groupe à Fribourg contribuera à écrire la légende du club. Cette stratégie de promotion et surtout la richesse du programme attirent un public toujours plus large. Frisson se mue toujours plus en scène culturelle qui rayonne bien au-delà des frontières du pays, attirant ainsi un public aux intérêts et aux intentions diverses.
Le contrôle des entrées, c'est la configuration était différente. C'était une époque qui était un peu plus raide aussi au niveau violence. Ça castagnait pas mal aux entrées. Les gens essayaient de rentrer gratuitement. Enfin bon, voilà, c'est ramassé 2-3 pas. Fini une fois ou deux à l'hôpital, mais bon, voilà. Ouais. Ouais, pas dans la gueule. J'ai ramassé une fois une chaussette avec... Ils avaient mis des pièces de 100 sous dans la chaussette, puis ils m'avaient tapé sur la tête. Et puis une fois, quelqu'un a juste pu rattraper quelqu'un qui sortait un couteau. Donc, voilà.
Jean-Marc Collomb, membre de l'équipe Frisson depuis 35 ans.
Donc, il y a eu une période, c'était assez violent. Après, ça, c'est assez... Et puis, il y avait même eu un soir, je ne sais plus pour quelle soirée, ils avaient engagé des... C'était les Broncos de Berne, donc les bikers. Et il y en a un qui s'était fait, carrément tirer un pied entre les jambes, donc il n'était pas bien du tout. Enfin, ça, c'était un peu, ouais, ça castagnait pas mal. Après, ça s'est vraiment tassé, il y a une période un peu, c'était aussi, voilà, difficile de frisson à l'époque, là. Aussi avec les trafics, on devait faire hyper gaffe, pas que le trafic vienne dans Frisson, donc on devait surveiller les gens, foutre dehors les dealers, enfin voilà, c'était plus tendu. Mais après ça s'est vraiment bien tassé, quoi. Ça c'était dans les années 90-91, par là autour. Moi je crois que j'ai commencé le comité en sauf erreur 91 par là. Ouais.
Dans tous les moments difficiles, parce qu'il y a eu plusieurs moments assez délicats, il faut absolument causer. Il y a eu des moments de difficiles avec, il y a à un moment donné, une sorte de petit trafic qui s'installait dans les toilettes quand la salle était dans l'autre sens. Là. Et on a été parler avec les flics. Quoi. On n'avait pas du tout envie que ce soit les flics qui fassent l'ordre dans cette maison. Quoi. Et on a réussi avec le temps à maîtriser ce système et puis à faire comprendre aux gens que ce n'était pas possible, quoi. Qu'il ne fallait pas venir. Voilà.
Je connais des gens qui venaient quasi tous les week-ends de Zurich pour les concerts de groupes grunge. C'était fin des années 80, début 90. Il y avait beaucoup de monde qui venait aussi de Suisse orientale et même des Grisons. J'ai parlé à l'époque avec des personnes qui venaient du sud de l'Allemagne ou du Piémont pour assister à des concerts. Très vite, Frisson est devenu en quelque sorte un hotspot.
Quand j'étais président, j'avais là la vision, on va dire, du président qui avait envie que le concert et que l'association marche. Et je me rappelle, j'arrivais et je regardais combien de voitures étaient alignées pour voir, dire « Ah tiens, est-ce que le concert marche ou pas ?» Et il y avait toujours ce moment, mais de se dire « Ça doit tourner. » Et suivant le rôle qu'on a, on vit le concert effectivement différemment. Et ça, moi, j'ai trouvé génial.
C'est ja dann auch recht lange so gsi, dass die Frisson jetzt im
Pendant longtemps, Frisson a été quasiment la seule salle de concert de cette taille en Suisse romande, avec un fonctionnement régulier. Bien avant les docks à Lausanne ou l'usine à Genève. Enfin, l'usine a une histoire très tumultueuse et elle s'est développée sur une base un peu différente qu'à Fribourg. Et ça motive aussi cette reconnaissance. Après chaque concert, on se retrouvait. C'était des moments où beaucoup de choses se passent et nourrissent la motivation de continuer.
Ja, wo viel entsteht und wo der viel Motivation geht auch zum Weitermachen.
Il y a eu beaucoup de collaborations avec les autres clubs, l'usine et la Rote Fabrique. À l'époque, on disait que c'était l'axe sacré du rock en Suisse et on a beaucoup échangé.
Ja, es ist, glaub, die Allianz, wo mal geschmiedet kam, ist zwischen der Rote Fabrik, BTR und Frisson, ist, glaub, entscheidend gewesen.
L'alliance qui s'est faite entre l'usine, la Rote Fabrik et Frisson a été déterminante. Ensemble, on a organisé un festival des clubs à la fin des années 80. On échangeait sur ce qu'on pouvait faire ensemble. On avait imaginé un festival avec un joli programme de 6 ou 7 groupes qui pourraient jouer alternativement dans nos 3 clubs. On a testé cette formule 2 fois.
Die Erfahrung haben wir 2 Mal gemacht.
Für Bands, Amerika zu holen oder
pour réussir à faire venir des groupes américains, il fallait trouver 2-3 dates en Suisse pour que ça soit rentable. Et donc la collaboration et les échanges entre l'usine, la Rote Fabrik et Frisson ont été déterminants pour parvenir à booker des groupes qui venaient pour plusieurs dates ou faire des affiches communes avec l'indication de 3 dates à Zurich, Genève et Fribourg. Cette collaboration entre les clubs nous a aussi permis de savoir ce qui marchait ailleurs.
Dieser Austausch zwischen den Clubs, der hat wahrscheinlich viel gemacht, dass man halt auch gewusst hat, was anderswo läuft.
Es ist natürlich eine gute Distanz zwischen den zwei.
Il y avait évidemment une bonne distance entre ces clubs d'un point de vue géographique et c'était un axe idéal, Zurich, Fribourg et Genève, pour enchaîner les dates.
Genf hat gut können unterhalten.
Au début des années 90, Frisson est l'une des étoiles au firmament des salles de concert alternatives en Suisse. Mais malgré ce rayonnement, comme tous les autres lieux culturels à Fribourg, la salle a dû faire face à certaines restrictions des autorités qui, aujourd'hui, semblent drôlement anachroniques.
Je me souviens parfaitement, au début des années 90, samedi soir à minuit pile, les organisateurs de la soirée venaient pour placarder des affiches qui disaient « interdit de danser ». Ils n'avaient pas le choix, c'était la loi. Le dimanche, c'était sacré, il n'y avait pas de ciné, et donc même si la fermeture était fixée à 3h du mat, il fallait s'arrêter de danser à minuit au moment où l'ambiance était super festive, et ça nous faisait tous bien rigoler ce truc. Je ne sais plus quand cette stupide loi a été abolie, c'était au début des années 90, mais à la fin, elle devenait difficile à appliquer.
Il faut imaginer peut-être ce que c'était cette salle au moment où elle est née et ce qu'était Fribourg à l'époque, c'est-à-dire une ville catholique très conservatrice, avec pas de possibilité de faire de spectacles ou de concerts les jours fériés, pas de possibilité de faire des concerts, des spectacles les veilles de jours fériés. Et je me rappelle vraiment très bien la première fois où on a pu faire des concerts le 24 décembre, donc la veille de Noël, ce qui est devenu maintenant un peu une tradition, hein, les veillées de Noël à Frisson. Mais c'était un contexte qui était complètement différent.
Ces questions administratives ne sont pourtant qu'anecdotiques face aux conflits qui grondent sournoisement dans les coulisses de Frisson. Dans les années 90, la salle est plongée dans la tourmente. Entre ses membres, les divergences ne cessent de s'amplifier et conduisent à des divisions qui vont ébranler l'avenir du club fribourgeois.
Cette période a amené de nombreux conflits à Frisson, mais aussi dans de nombreux lieux culturels de l'époque.
Damir Skenderovic, impliqué à Frisson dans les années 80 et 90.
La professionnalisation a aussi
La professionnalisation, ça a conduit à une structuration des lieux, à une institutionnalisation. Et évidemment, si on compare la scène musicale du début des années 90 avec l'esprit initial de Frisson, celui des années 80, c'est le contraire du punk. C'est le contraire d'une posture qui dirait on se positionne contre une forme de structure, contre la routine, contre une certaine institutionnalisation, que ce soit au niveau de créer de la musique ou de la façon de l'organiser. Et effectivement, au début des années 90, si je me souviens bien, il y a eu plusieurs assemblées générales à Frisson, plusieurs votes, et il y avait beaucoup de membres qui défendaient l'esprit du début des années 80 et qui voulaient poursuivre dans cet esprit.
der Spirit aus den 80er Jahren oder Anfangs 80er Jahre haben weiter wollen führen in den 90er Jahren und parallel dazu hat sich die Musikindustrie, das Musikbusiness.
Mais en parallèle, l'industrie de la musique s'était transformée en marché et avec le nouveau bâtiment de Frisson, les charges financières sont devenues plus importantes, les normes de sécurité imposées par les autorités ont changé, etc. Et donc l'esprit de résistance, l'esprit de contestation qui était là au début a dû être ou a été abandonné. Et ça a évidemment conduit à des conflits, car tous n'étaient pas du même avis.
Il
y a vraiment eu un moment clé qui a conduit en quelque sorte à une séparation de deux mondes. Donc, pour revenir au contexte, à l'époque, il y a eu la première grève des femmes. C'était, sauf erreur, en 1991.
Marius Geiser.
Und dann ist es darum gegangen, ob die Frisson der Frauenstreik mitmacht. Und dort hat sich wirklich Welten getrennt. Also, E-Fraktion, er.
Et la question s'est posée, si Frisson devait y participer. C'est là qu'est intervenue la séparation des mondes. Un des groupes, disons la fraction gothique, voulait rester en dehors de la grève, alors que la fraction arc-en-ciel voulait qu'on participe. Et ce moment a fait éclater au grand jour les conflits qui étaient déjà sous-jacents. C'est devenu de plus en plus virulent et ça a conduit à deux assemblées générales extraordinaires avec des votes disputés, avec beaucoup d'alliances et de stratégies secrètes. C'était vraiment pas joli.
C'était vraiment clanique, séparé. Et puis, moi, ce que je sentais, c'est que ça pouvait peut-être faire tomber aussi Frisson, l'idée de Frisson.
Isabelle Barra.
Et puis de casser aussi beaucoup de choses aussi au niveau de l'amitié et puis de toute cette énergie qui était là. Et puis, on était tous un peu le cœur qui bat. Moi, j'avais peur. Enfin, j'étais quand même en souci.
D'après mes souvenirs, il y avait vraiment deux visions qui s'affrontaient. Il y avait une partie des gens qui voulaient que Frisson s'ouvre aux personnes, qui souhaitaient s'engager et qui voulaient ouvrir à d'autres styles de musique. Et de l'autre, il y avait les personnes qui poussaient pour rester un club de rock underground et pointu, et où certaines personnes voulaient garder leurs prérogatives.
Laurent Steyert.
Il y avait donc ces deux orientations pour la suite. Et tout ça, ça a généré bien sûr des conflits personnels et ça se sentait.
C'est vrai que je pense que le moment qui nous a tous marqués, c'est l'Assemblée générale de début des années 90 qui a quand même...
Valérie Imbert.
Qui a donné une orientation à la salle et qui a divisé, qui a vraiment... Moi, je dis divisé la ville parce qu'évidemment, tu la vois à la hauteur de ton activité et tu as l'impression que tout le monde est à frisson. Mais moi, il y a des gens qui ne m'ont plus jamais reparlé depuis quand même. Et il y a encore des gens aujourd'hui, si je les croise dans ma tête... Je sais qu'ils étaient de l'autre camp. C'est un truc dingue, quoi. Je leur parle, on parle, on rigole. On n'en parle plus, d'ailleurs, parce que la roue a tourné. Mais au fond de moi, je me dis, c'était les autres. Et c'est vraiment un truc dingue, quoi, ça, ouais.
C'était une période un peu style le grand fossé Astérix où les gens se tirent la langue et se crachent contre alors qu'on était amis avant.
Ça a été des décisions difficiles à prendre. Enfin, moi, je me rappelle du week-end d'avant, d'avoir fait une longue marche avec mon compagnon de l'époque, qui était Jean Magachou, aussi actif à Frisson. Et voilà, on se disait, mais on va s'aliéner des gens qui sont des copains, quoi. Mais ce choix s'imposait. Ça a été difficile. Ça a vraiment été hyper difficile, ouais.
C'était un petit peu là où j'ai aussi arrêté.
Sonia Maraf.
La vie a continué dans un autre sens et puis j'étais aussi très heureuse avec mes gosses et puis ça m'a pas posé de problème de faire un break, si tu veux. On était toujours quand même encore en contact avec Franz, Hélène, les autres. Après Frisson, voilà, c'était...
Ce que je peux simplement dire, c'est que dans toute aventure humaine comme ça, où on change vraiment de nature du projet de départ tout petit à un truc qui devient beaucoup plus important...
Jean-Marc Gachou.
Il y a un moment donné où il y a un passage assez difficile. C'est comme si on passait de l'état enfant à l'état adulte. Et il y a des gens qui projettent des idées de frissons sur l'avenir qui ne sont pas forcément les mêmes que tout le monde. Et ça peut amener à des dysfonctionnements d'abord qui entraînent une crise, et à la fin, la solution d'une crise, malheureusement, la plupart du temps, ça se passe par ce genre de, comment dirais-je, de décision où il faut se séparer d'une partie des gens ou de quelques personnes.
Voilà, dans la croissance, il y a des fois une branche qu'il faut couper parce qu'elle est un peu sèche ou qu'elle ne correspond pas. Donc voilà, ce qui a été fait, je pense, c'est ce qui a aussi permis à Frissons de continuer bon an, mal an, et puis d'évoluer dans ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui, quoi.
Là, ça a pris une coloration assez particulière parce que c'était quasiment le fondateur, Jacques. Ceci dit, moi, je n'ai jamais changé d'avis là-dessus. Je pense que c'était nécessaire, douloureux. Et on a tous pris plein la tête avec cette histoire. Mais je continue de penser que c'était la bonne chose. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle continue d'exister. Et la deuxième chose, c'est que je ne retire pas les qualités que Jacques avait par ailleurs sur sa capacité à sentir les courbes venir en matière de musique. Ça, c'est clair.
Ce chapitre douloureux de l'histoire de la salle va continuer longuement à hanter les mémoires, mais il ne suffira pas à faire tomber l'idée de Frissons, bien au contraire. La nouvelle répartition des rôles au sein de l'équipe de gestion va permettre l'ouverture de l'espace au projet de nombreux collectifs qui vont contribuer à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de Frissons.
Je crois que ce tournant et les conflits qui en ont émergé ont finalement mené à une diversification de la scène culturelle fribourgeoise dans les années 90.
À suivre. Un podcast de l'association Frissons. Réalisation, Valentin Bruguère et Noémie Guignard. Musique, Eric et Alexis Rueger. Traduction, Noémie Buchy, Julie Hugo et Kim Sanner, graphisme Lucie Bayot, et un merci tout particulier à Yvan Salin, Sonia Maras, Franz Streichler et Daniel Prella pour leur précieuse mise à disposition d'archives et d'enregistrements.